Bonjour Francis Béresnet.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous publiez ces jours-ci un livre intitulé Le dit du brut, sous-titré Colère.
Oui.
Dans une petite maison d'édition, la chambre d'écho. Et bien entendu, dès la première, pas seulement la première page, mais dès la première ligne, il y a une allusion à Jean Dubuffet.
Tout à fait.
C'est la moindre des choses.
Absolument.
Et c'est une question de gratitude.
Non, c'est parce que je crois que Dubuffet continue d'être la figure la plus importante de cette affaire. C'est lui qui a repris, juste après la guerre, qui a reconstitué les collections, qui les a, disons, mises en avant, qui les a fait connaître, les collections des patients qui se trouvaient en Suisse ou en France ou à Sainte-Anne. Et qui a monté le musée de l'art brut à Lausanne. C'est une des figures les plus importantes de l'art brut. C'est aussi lui qui a inventé l'art brut.
Oui, tout simplement.
Tout simplement. C'est lui qui l'a nommé et qui l'a inventé.
Mais qu'est-ce que vous appelez, vous, art brut?
Moi, je ne sais pas. Je l'appelle à sa suite art brut par commodité. Mais à mon avis, l'art brut, ça n'existe pas. Il y a de l'art et c'est tout.
Voilà. Disons que l'art brut fait partie de l'art.
Oui,
si certains veulent l'opposer à l'art moderne ou contemporain,
oui.
Mais pour vous, qui sont les artistes de l'art brut? Je veux dire, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les distingue des autres?
Eh bien, justement, ce livre était une tentative aussi en introduisant des illustrations qui mettent en regard des œuvres d'artistes bruts et d'artistes dits culturels, une tentative de confronter les deux genres, dirons-nous, et de voir que on peut très bien regarder un Miro comme une œuvre d'art brut et regarder un Wolfli comme une œuvre d'art culturel. La limite n'est pas très précise, les frontières ne sont pas très, très exactes, les genres sont fluctuants comme ça.
Mais pourtant le brut existe, la preuve.
Pourtant le brut existe, mais ce qu'il en est, je n'en sais rien. Je ne pourrais pas l'affirmer. Mais je crois que ça ne se limite pas aux définitions qu'on a données du Buffet, à savoir des problèmes de d'acculturation, car je pense que c'était des gens qui avaient une culture, et qui avaient une culture, peut-être pas la culture universitaire, mais qui avaient une culture qui était celle du quotidien, des images de magazines, des publicités, enfin, des monnaies.
Qui étaient souvent des marginaux.
Pas tous des marginaux, c'était pas tous des marginaux parmi les grands artistes. Enfin, parmi, par exemple, Aloïs, par exemple, était une femme qui avait une vraie culture, qui avait eu une éducation très poussé, qui avait fait des études et qui a sombré dans la folie.
Bon, qui sont la plupart du temps des reclus.
Des reclus, oui.
Donc des reclus soit de l'hôpital psychiatrique, soit de la prison, parfois.
De la prison, je n'ai pas connaissance d'œuvres qui aient été faites en prison. C'est d'ailleurs un problème. C'est un problème parce qu'on se demande si, au début du siècle, il y a une création en prison.
Quelle est votre expérience de l'art brut pour pouvoir en parler tel que vous le faites dans cette colère?
Eh bien, moi j'ai rencontré l'art brut, j'avais une vingtaine d'années, j'étais allé à Lausanne, et j'ai trouvé je suis tombé sur un livre qui s'appelle L'expression de la folie, qui est le livre d'un psychiatre allemand, Prinzhorn, qui est le premier livre qui montre les œuvres des fous comme des œuvres d'art, et qui est un livre extrêmement intéressant parce qu'il essaye de classer chaque type de production selon une pulsion de jeu, une pulsion de gribouillage, c'est une tentative assez effrayante parce que on ne peut pas s'amuser, que les œuvres soient brutes ou que les œuvres ne soient pas brutes, s'amuser à classer la peinture en catégories, ça c'est du jeu, ça c'est du... Une œuvre d'art échappe à toutes ces... Il me semble, enfin, non pas qu'on ne puisse rien en dire, mais en tout cas pour en dire des choses aussi simples, et en faire une espèce de nosologie.
Mais là, c'est le cas de le dire, en l'occurrence, nosologie, vu le contexte.
Oui.
Mais vous, Francis Béresnet, l'art brut, vous l'avez découvert donc dans le cadre muséal?
Non, j'ai découvert d'abord dans un cadre muséal, et ensuite personnellement, parce que je suis devenu, disons, pas la victime, ce serait bien exagéré de dire ça, mais consommateur de psychiatrie, en tant que patient.
Donc, oui, mais vous avez donc vécu dans un hôpital psychiatrique?
Voilà, j'ai vécu dans un hôpital psychiatrique.
Combien de temps?
J'ai vécu 4 ans dans un hôpital psychiatrique.
Et là, vous avez rencontré l'art brut?
Alors là, non, dans cet hôpital psychiatrique, absolument pas. Mais j'ai un long parcours psychiatrique qui a commencé quand j'avais 25-26 ans. Et j'ai rencontré l'art brut dans une clinique privée des environs de Paris, qui est assez connue, où finalement, on laissait aux gens le temps et on leur on leur fichait la paix, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, s'amuser et créer s'ils l'entendaient, ne pas créer s'ils n'entendaient pas, s'occuper comme ils voulaient, s'ils voulaient jouer au ballon, jouer au ballon, s'ils voulaient faire des dessins, ils faisaient des dessins. Et il y avait suffisamment de liberté pour que les gens puissent s'exprimer et qu'il en sorte des œuvres d'une certaine qualité. Dans ce livre, ce que je dénonce un peu, c'est que dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qu'ensuite j'ai connus, il y a une espèce de chape de plomb qui se pose à tous les niveaux d'ailleurs sur les patients et aussi au niveau de la création par des systèmes de séances d'ergothérapie qui ne sont que des séances d'occupation d'une débilité profonde où il s'agit de faire du macramé, d'enfiler les épingles, de faire des...
Et vous en avez connu beaucoup des hôpitaux psychiatriques ?
J'en ai
de
connu...
différents ?
Non, j'en ai connu un. J'ai connu une clinique et un hôpital psychiatrique.
Mais ce que vous dites également, et c'est ce qu'on comprend en tout cas, Francis Bérezné, c'est que finalement la camisole chimique, le médicament qui est devenu aujourd'hui tout puissant et qui exerce une sorte de tyrannie par rapport à la thérapie et à la parole, hein, on peut le dire même sans entrer dans le débat, c'est peut-être ça qui va tuer l'art brut.
Non, je ne pense pas.
En tout cas, qui va l'atténuer, parce que l'art brut était aussi favorisé par, par une
je
sorte de...
Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Parce que, je vais vous dire, les médicaments... Alors, c'est la façon dont sont donnés les médicaments, oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire cette espèce de rite avant chaque repas, trois fois par jour, toujours de la même façon, des années durant le même traitement, sans jamais le reconsidérer, sans qu'il n'y ait aucune parole à l'intérieur de l'hôpital, car il n'y a aucune parole... Les gens ne sont pas pris en charge, on ne vient pas les chercher pour avoir un entretien, il n'y a pas de psychothérapie, les psychologues jouent aux cartes une fois par an avec les patients. Enfin, je veux dire, mais le médicament lui-même n'est pas en cause. On peut très bien prendre des médicaments et créer un nombre de créateurs qui prennent du Temesta ou qui prennent du Seresta ou qui, pour se désangoisser est considérable.
Enfin, là, il ne s'agit pas de trop de Temesta quand même. Hein.
Non, c'est des choses un peu plus fortes. Mais enfin, moi-même, bon, je travaille à l'extérieur de l'hôpital. Je crois que c'est vraiment l'enfermement, d'une part. Et je crois que c'est surtout une grande volonté de normaliser à tout prix, et à travers le médicament, et à travers les activités des patients. Il s'agit de les normaliser, de leur faire faire des choses qui ne font pas de vagues. Il s'agit de tasser les patients pour qu'ils soient tranquilles et sages, qu'il n'y ait pas d'éclat. Bon, ce qui est dans un sens peut-être un plus par rapport aux grandes violences qu'on pouvait connaître dans les hôpitaux psychiatriques autrefois. Bon, là on va dans un excès de tassement, d'épuisement des malades par les pas d'épuisement, mais
d'aboutissement.
D'aboutissement par le médicament. Mais c'est aussi une grande volonté normative. Il s'agit de faire rentrer les gens dans le rang à tout prix. Et donc on leur donne des occupations manuelles de la plus grande imbécilité.
On vous en parlait dans votre livre, et puis vous parlez également de l'effet produit sur vous par l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud, entre autres, le fameux pot. Et c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps de développer. Mais il faudra que vous reveniez un jour pour qu'on parle de
avec
tout
plaisir.
Ça plus longuement. Merci Francis Bérezné. Il est 8h27, on retrouve Julia Kristeva pour